9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche, bienvenue dans C'est arrivé demain. Dieu sait si l'on a beaucoup parlé de la loi de sécurité globale, mais toujours du même article 24, pas du reste. Alors l'un des meilleurs spécialistes français de la police, Sébastien Rocher, est en direct avec nous ce matin. Avec lui, on va beaucoup mieux comprendre le contexte dans lequel elle s'inscrit, c'est-à-dire la conception française du maintien de l'ordre, qui est très différente que celle de nos voisins européens. Ensuite, il y aura Silke Graf, l'impératrice des médecins légistes. Si vous avez l'habitude de regarder des séries comme Dexter ou Les Experts, vous pensez que la médecine légale n'a plus de secret pour vous, eh bien vous allez être surpris. Et comme le couscous devrait faire son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO à la mi-décembre, oui bon chut, ce n'est pas encore officiel mais c'est à peu près certain, on terminera l'émission avec un roi du couscous, le chef Nordine Labiade, qui sort un beau livre intitulé Couscous pour tous. Ça tombe bien, c'est l'un des plats préférés des Français, mais on ne connaît qu'une seule recette de couscous. Là, il y en a 100. Toutes différentes. Sébastien Rocher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes français de la police, en tout cas l'un des plus respectés à l'étranger. Vous êtes l'auteur d'un livre qui est devenu une référence, De la police en démocratie, c'était paru chez Grasset. Et vous êtes co-auteur du documentaire Police Attitude, qui sera diffusé samedi prochain, 21h, sur la chaîne Public Sénat. On va en reparler de ce documentaire. Mais la loi de sécurité globale, dans quel contexte s'inscrit-elle pour le gouvernement et pour la police? Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Alors, il y a en ce moment une crise morale de la police en France, moi telle que je ne l'ai jamais connue sur les 40 dernières années. D'abord, il y a eu, avec le mouvement des Gilets jaunes, deux personnes tuées en 6 mois, une pendant les Gilets jaunes, une à Nantes, et 30 personnes mutilées. Il n'y a pas de police européenne qui mutile 30 personnes en 6 mois. Ça n'existe pas. C'est sans précédent. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu une documentation très précise de ces violences par les vidéos. Et c'est ce mouvement-là, de documentation par le public et par des journalistes indépendants des violences policières, qui a obligé le gouvernement à, pour la première fois, essayer d'esquisser une doctrine de maintien de l'ordre, le schéma national de maintien de l'ordre, et puis qui l'a poussé à imaginer que la bonne solution, ça serait de limiter toutes ces images.
Alors justement, cet article 24 qui a été particulièrement décrié, il y avait encore une manifestation hier à Paris au Trocadéro. Pourquoi l'avoir conservé jusqu'au bout? On se dit que c'était simple de s'en débarrasser, puis hop, le reste de la loi allait passer comme une lettre à la poste. Or, le gouvernement, en tout cas Gérald Darmanin, avait l'air de s'arc-bouter dessus. C'est parce que la police le demande?
Oui, alors techniquement, on n'a pas besoin de cet article 24 puisque toute incitation à la haine et à la violence est déjà punie par le code pénal français. Donc il n'y en a pas techniquement besoin, mais politiquement, la situation, c'est que à la fois le président de la République et le ministre de l'Intérieur ont promis aux syndicats qu'ils allaient faire quelque chose. Et donc, ils veulent tenir leur promesse par rapport aux forces de police et de gendarmerie, parce qu'ils veulent les tenir jusqu'à l'élection présidentielle. Donc, c'est un calendrier politique qui, en fait, est en train de dicter une loi qui est assez dangereuse.
Mais c'est vrai qu'il y a un calendrier qui est aussi, pas seulement politique, qui est aussi social. Il y a la crise sanitaire, il y a la crise sociale qui en découle et qui pourrait éclater d'un moment à l'autre, on ne sait pas. On a besoin de la police, là.
Ah oui, le gouvernement a toujours besoin de la police. Il déteste la voir dans les rues. Il y a des mauvais précédents, comme ce qui a concerné Lionel Jospin, qui a perdu l'élection présidentielle au moment où il y avait, dans le même temps, des protestations policières. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on a besoin de la police. La police française est la championne d'Europe des verbalisations. Lors de la première vague, elle a verbalisé presque 1 million de personnes. C'est sans commune mesure avec ce qu'ont fait, par exemple, les Néerlandais, nos voisins, qui n'ont absolument pas vu l'utilité de verbaliser les gens pour lutter contre le virus. Donc ça, c'est vraiment une décision très française.
Alors l'article 24, c'est vraiment un article contre le téléphone portable. C'est le téléphone portable qui est visé, le téléphone portable de tous les manifestants, de tous les observateurs. Vous avez expliqué que c'était pour la première fois, en fait, les citoyens peuvent contrôler la police.
Ce qui s'est passé, c'est que la technologie a complètement modifié le contrôle de la police. Jamais le législateur, jamais les autorités de contrôle n'avaient imaginé une seule minute que les citoyens allaient eux-mêmes participer au contrôle de la police. Alors ça a pu être écrit dans des manuels qui ont été disséminés par l'Union européenne ou les Nations unies à destination des pays en voie de développement. Mais pour les pays développés, on n'a vraiment jamais imaginé ça. Donc c'est quelque chose qui a fait irruption de manière massive, à tel point qu'aujourd'hui, le principal outil qui amène à pouvoir demander des comptes aux agents de police et à la stratégie de police, c'est le téléphone mobile.
On a moins parlé que de l'article 24, d'un article dans la loi de sécurité globale qui permet pourtant à la police un recours élargi aux caméras mobiles dont sont équipés les policiers et aussi l'utilisation des drones pour filmer les manifestants. Ça, on n'en a rien dit, hein.
Alors ça passe un peu inaperçu parce que la polarisation s'est faite autour du droit à s'informer mutuellement et du droit des journalistes à nous informer, donc à la liberté d'information. Et donc les autres articles sont passés plus inaperçus. Il y a d'un côté effectivement, on y reviendra peut-être, la démonopolisation en fait des fonctions de police. Et puis de l'autre côté, il y a le contrôle. Est-ce qu'on voit le contrôle des citoyens par les images? Est-ce qu'on voit effectivement ce qui est promis? C'est que la police puisse filmer plus au niveau du sol et puis filmer plus depuis les airs avec aujourd'hui des drones qui ont des capacités de zoomer sur les visages, d'enregistrer ces visages et de les transmettre en temps réel à un QG. Et l'horizon qu'on peut craindre de voir se dessiner, c'est l'horizon plutôt du modèle chinois, c'est-à-dire un gouvernement qui va avoir des fichiers extrêmement étendus de visages et qui va pouvoir en temps réel essayer de tenter d'identifier un par un les personnes qui sont dans la foule. Les Chinois vont jusqu'à leur mettre des notes, hein, si vous voulez, de bons citoyens. Donc je dis pas qu'on est là en France, mais je dis que on va dans une direction où collecter les images en masse et en live, c'est utile si on a de l'intelligence artificielle qui les analyse, et c'est probablement ce qui est prévu.
Oui. Vous avez parlé de démonopolisation. C'est vrai que la loi de sécurité globale permet également d'élargir le champ d'intervention des polices municipales. C'est à ça que vous faisiez allusion, j'imagine.
Alors, ce qui est en train de se passer, oui, c'est à la fois aux pouvoirs qui vont être donnés aux polices privées et aux polices municipales. En 2006, donc c'est un petit peu ancien, j'avais écrit un article dans une revue technique, la revue française de sciences politiques, qui s'appelait vers la démonopolisation des fonctions régaliennes. Donc ce qu'on voyait déjà émerger à l'époque, et qui se renforce depuis, c'est qu'effectivement, la police, c'est plus l'État. La police aujourd'hui, c'est le gouvernement effectivement central, c'est le niveau municipal, c'est les polices privées, et aussi le développement de l'Union européenne. Donc en fait, les cartes sont en train d'être complètement rebattues, et ce que, à mon avis, ce projet de loi permettra, ou disons c'est une étape dans une tendance, c'est la privatisation de plus en plus de fonctions de police pour une raison très simple, c'est que l'industrie privée est moins chère. Les heures d'agents de police privée, de surveillance, sont beaucoup moins chères, et la question du coût, à un moment ou à un autre, va dicter les solutions qui vont être retenues par le gouvernement.
Alors, dans votre livre que je citais tout à l'heure, De la police en démocratie, Sébastien Rocher, vous expliquez que la France est un des pays européens où la population a le moins confiance en sa police. C'est vraiment ce qui nous caractérise au départ. Et il faut savoir aussi que c'est comme ça à peu près dans toutes les classes sociales, hein. C'est pas seulement dans les cités de banlieue.
Oui, alors en France, la police a perdu une bonne partie de la confiance des citoyens. Elle est perçue comme une des plus discriminatoires en Europe. C'est un sujet de préoccupation. Évidemment, c'est encore plus vrai en direction des personnes qui appartiennent aux couches modestes. Mais le décalage avec, par exemple, l'Allemagne, il est vrai, même chez les jeunes, par exemple, chez les jeunes allemands blancs d'origine allemande et de couche supérieure, eh bien, vous avez un niveau de soutien à la police qui est inférieur à ce qu'on trouverait chez les Français blancs d'origine française de couche supérieure. Donc il y a vraiment un problème, et ce problème, il est lié au fait simple que la police ne recherche pas la confiance dans le modèle français. Elle cherche à s'imposer par la force, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est décalé par rapport aux aspirations de la population.
On a une autre particularité, c'est notre conception du maintien de l'ordre. Là aussi, c'est assez singulier et plutôt mal vu chez nos voisins européens.
Ah oui, alors j'entends parfois des responsables politiques ou syndicaux qui disent qu'on exporte le modèle français. On l'exporte dans les pays autoritaires, c'est ça qu'il faut savoir. On ne l'exporte pas dans les démocraties. Il n'y a aucune démocratie qui vient prendre un modèle chez nous. Il y a des échanges techniques qui existent, bien sûr. Mais on n'est plus du tout un modèle. Pourquoi ? Parce que au tournant des années 2000, il y a eu un certain nombre d'événements, par exemple à Gothenburg en Suède, où la police a tiré sur les manifestants, et à partir de là, ça a déclenché dans ces pays une réflexion sur comment on fait pour ne pas arriver au moment où on tire sur les manifestants. Et ça s'est développé d'une part en Suède, mais aussi en Allemagne. C'est les théories de la désescalade qu'on connaît un petit peu mieux en France. Et 10 ans après, à partir des années 2010, il y a un projet européen qui s'appelle GODIAC, qui est un projet qui vise à réfléchir sur la police avec des policiers, des psychologues d'un certain nombre de pays européens qui ont participé et qui ont essayé de rénover la doctrine de maintien de l'ordre et de mettre l'accent sur la communication, d'une part, l'accent sur le droit des citoyens à manifester, le fait que, dans l'objectif de cette réflexion, il y avait bien sûr le fait qu'il n'y ait pas de casse, mais il y avait aussi le fait d'assurer le droit des citoyens à manifester. Et ça, c'est quelque chose qui, en France, n'a pas eu lieu.
Alors tout ça, vous le racontez en détail dans Police Attitude, hein, c'est un documentaire sous-titré 60 ans d'histoire du maintien de l'ordre en France, mais vous y racontez aussi ce qui se passait chez nos voisins allemands et britanniques. Police Attitude nous fait totalement comprendre à quel point les Français c'est différent. Alors pourquoi est-ce que les Français ne vont pas, ne repensent pas leur doctrine du maintien de l'ordre avec les autres polices européennes au début des années 2000? Pourquoi la France est toujours seule dans cette histoire de maintien de l'ordre?
Le gouvernement et les représentants des organisations professionnelles en France pensent qu'on a la meilleure police du monde. Donc à partir du moment où vous avez la meilleure police du monde, vous n'avez pas de raison d'en changer. Donc ce complexe de supériorité, il est véritablement un verrou. Puis il y en a un deuxième, c'est que le gouvernement en France se méfie du peuple. Et donc, comme il se méfie du peuple, il dit on n'est jamais trop prudent et on a besoin d'avoir des armes comme le LBD, des armes comme les grenades de désencerclement, les grenades instantanées type GLIF-4 qui ont été remplacées par d'autres grenades. Tous ces matériels sont interdits en Allemagne, sont interdits au Danemark, interdits en Suède, interdits au Royaume-Uni. Donc ce ne sont pas des outils. Voilà, donc le gouvernement français, il est dans une position où il ne réfléchit pas aux grands objectifs de défense des droits. Je crois que les prises de parole actuelles de M. Darmanin l'illustrent très bien. Il est conduit par, en fait, le choix de petites innovations techniques sans grand projet pour démocratiser la police.
Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en Allemagne, par exemple, on le voit encore dans votre documentaire, c'est la Cour constitutionnelle, enfin la Cour de Karlsruhe, qui est l'équivalent de notre Cour constitutionnelle, qui va définir la doctrine du maintien de l'ordre.
Oui, alors en France, il n'existe en fait aucun organe qui est capable d'encadrer la police pour qu'elle fonctionne dans le cadre d'une protection forte des droits de l'homme. Donc nous n'avons ni une Cour constitutionnelle qui rend des arrêts, qui clairement fixe des lignes et empêche la police, par exemple, d'utiliser un matériel, encore une fois, comme les LBD ou les grenades. Ça, le Conseil constitutionnel en France ne le fait pas. Et nous n'avons pas non plus de Parlement fort qui est capable d'imposer des lignes au gouvernement et à la police. À la suite, par exemple, d'affaires où il y a eu des décès, il y en a de temps en temps, le Parlement, par exemple dans l'affaire Malik Houssekine, en fait, se borne à dire « bon, il faut que ce soit des professionnels qui réalisent le maintien de l'ordre, donc des CRS, des gendarmes mobiles, et il faut que la foule soit tenue à distance ». Mais ces recommandations du Parlement ne sont absolument pas contrôlé par le Parlement. Donc on n'a ni une Cour constitutionnelle, ni un Parlement pour encadrer les pratiques et les doctrines du maintien de l'ordre.
Alors, peu après que les autres polices européennes aient repensé leur doctrine au début des années 2000 et pensé la désescalade, la négociation, des méthodes plus scientifiques, etc., etc., la France, elle, continue son petit bonhomme de chemin et se retrouve face aux émeutes de 2005. 3 semaines d'émeutes urbaines, 3000 interprétations. Là, ça va assez mal. Et au fond, ce que vous expliquez, c'est qu'à partir de ce moment-là, notre doctrine française du maintien de l'ordre, ça consiste à mater l'insurrection.
Ah oui, alors quand les émeutes éclatent en France en 2005, bon, Nicolas Sarkozy est le ministre de l'Intérieur. Et on n'a jamais vu d'émeutes de cette taille-là en Europe pendant toute la Ve République, disons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et à ce moment-là, il n'est pas possible d'utiliser les CRS et les gendarmes mobiles de la manière classique. Pourquoi ? Bah parce que ce sont des forces qui sont faites pour disperser. On l'a vu encore hier soir, on le voit régulièrement, ce sont des forces qu'on utilise pour empêcher d'aller quelque part et ensuite pour disperser la foule. Mais là, quand vous avez des émeutes sur le lieu de vie des personnes, cette doctrine n'est absolument plus adaptée. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'utiliser les forces de maintien de l'ordre pour faire ce que les policiers appellent de la sécurisation. Bref, en fait, pour quadriller le terrain des banlieues, pour occuper l'espace des banlieues, et pour faire des interpellations. Et pour ça, évidemment, on va les équiper des fameux LBD qui vont faire tous les dégâts qu'on connaît, mais cette fois-ci, 15 ans plus tard.
Oui, et au fond, à chaque fois, 15 ans plus tard, c'est pour les Gilets jaunes, mais à chaque fois, quand on entend les politiques, que ce soit face aux banlieues en 2005, face aux zadistes, face aux Black Blocs, face aux Gilets jaunes, à chaque fois, ils disent « on n'a jamais vu une violence aussi grande, donc il faut répliquer par une violence encore plus grande ».
Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faux. Ce qu'on voit, c'est que à la fois en tendance sur 40 ans, hein, les protestataires sont de moins en moins violents. Il y a d'ailleurs de moins en moins de policiers tués. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui est lourde. Et on voit dans l'histoire les affrontements qu'il y a eu en 68, les affrontements qu'il y a eu à la fin des années 70 avec la désindustrialisation. On a eu des protestations d'ouvriers qui étaient en train de perdre par dizaines de milliers leur travail, qui étaient d'une violence incomparable. Et du côté de la police, il faut se souvenir qu'en 61, la police sous Papon, hein, sous le préfet Papon, tue 150 à 200 personnes dans une nuit. C'est complètement incroyable. Et elle tue, début 62, 9 militants communistes à coups de projectiles métalliques, alors qu'ils sont coincés dans une bouche de métro. La police tue 9 personnes de cette manière-là. Donc ce ne sont plus des choses qu'on va voir aujourd'hui. Donc il y a eu un apaisement en fait, des relations sociales et des conflits jusqu'à présent. Donc ce n'est pas du tout parce qu'il y aurait plus de violence que la police française a mutilé 30 personnes en 6 mois. Ce n'est pas l'explication.
Merci Sébastien Rocher. Votre documentaire Police Attitude sur 60 ans d'histoire du maintien de l'ordre en France, c'est samedi prochain à 21h sur la chaîne Public Sénat. On se retrouve dans un instant avec l'impératrice des médecins légistes.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Professeur Silke Graber, bonjour. Vous êtes une référence internationale en tant que médecin légiste. Vous êtes à la tête du Centre universitaire roman de médecine légale des universités de Genève et de Lausanne, qui fait autorité. Et vous avez eu la bonne idée de publier chez Favre « La mort n'est que le début de l'enquête du médecin légiste », un livre très intéressant, très amusant aussi, que vous avez écrit pour expliquer votre métier à tous ceux qui regardent des séries comme Dexter ou les Experts. Ce sont ces séries qui vous ont donné envie d'écrire, au fond.
Bon, en fait, l'idée venait directement de plein de personnes qui m'ont demandé d'expliquer de toutes les conférences que j'ai faites. Et chaque fois, les questions, ils se répètent. Mais quelles sont les différences? Est-ce que vous pouvez aussi faire ça? Est-ce que c'est juste ce qui se passe dans les séries? Et du coup, en discussion avec Pierre-Marcel Favre, il m'a dit, il faut absolument qu'on écrit quelque chose. Comme ça, on arrête peut-être de poser toujours la même question.
Par exemple, vous courez bien les scènes de crime, mais pas en fourreau noir et pas en talon aiguille. Hein.
Exactement, j'essaye d'éviter parce que sinon hein, ça coûte très cher en chaussures, disons.
Oui, puis il ne faut pas contaminer la scène de crime. Hein. Vous expliquez à ceux qui pourraient avoir la vocation, éventuellement, parce qu'ils ont vu les experts, qu'il faut enfiler une combinaison stérile, des lunettes de protection, un masque, un petit bonnet en papier, des chaussures en plastique, c'est beaucoup moins sexy.
Oui, en fait, tous ces habits se mettent en-dessus des habits normaux, donc théoriquement, on pourrait être super bien habillé en dessous, on pourrait même avoir des chaussures en talons aigus, mais ça ne serait pas très pratique et ça pourrait faire des trous dans notre combinaison parce qu'elle continue au niveau des pieds, en fait.
De même, dans les séries de télé, les médecins légistes utilisent toujours des petits instruments de dissection très très fins, très jolis. En réalité, vous dites que ce sont de véritables couteaux de cuisine.
Oui, alors là, il y a des écoles différentes. Évidemment, on a les petits bistouris fameux aussi, mais en réalité, le plus grand est le couteau, le plus fin, on peut couper, mais il faut savoir le manipuler. Donc ouais. Moi, je préfère les grands, très honnêtement.
Oui, parce que c'est plus précis, au fond, vous dites.
Oui, et de plus lourd est la lame, de plus fin, on peut couper, en fait. Avec un scalpel, un petit mouvement peut faire un grand dégât. Il est plus difficile à diriger, si on veut.
Alors, continuons dans les détails, j'allais dire les détails qui tuent. Le thermomètre, on ne le plante pas dans le foie, comme dans les séries, mais dans le rectum. Hein, une méthode considérée comme barbare, mais aux États-Unis seulement.
Oui, en fait, c'est plutôt barbare de créer un trou à l'intérieur d'un corps, alors qu'il y a des orifices qui sont bien existants. Donc nous, on essaye de garder le corps intact, donc je trouve plutôt barbare la version donnée par les experts à la télé. Moi, je ne ferais pas ça.
Ce que le mort a mangé avant sa mort, est-ce que c'est si déterminant que ça? Dans les séries, mais aussi dans les films, ils s'appesantissent toujours sur ce qu'on appelle le bol alimentaire.
Oui, alors le bol alimentaire, on les garde, on les décrit, on l'examine, on doit même sentir s'il y a une odeur particulière parce que ça peut donner des indices, mais c'est purement des indices. Aujourd'hui, on travaille avec les techniques qui vérifient beaucoup plus en détail, les analyses qui sont beaucoup plus objectives que le nez d'un médecin légiste. Mais en effet, ça ne nous donne pas énormément d'informations. Pourquoi? Tout simplement parce que la digestion de chaque personne est tellement variée, elle dépend de tellement beaucoup de facteurs que finalement, on ne peut pas dire grand-chose là-dessus.
Et l'analyse des cheveux?
Les cheveux, ça c'est important parce que les cheveux, c'est un peu le mémoire de tout ce qu'on a consommé. Et consommer, ça veut dire au niveau de l'alcool, des drogues, toutes les substances.
Et même depuis longtemps, hein?
Bah, ça dépend de la longueur des cheveux.
Ah. Et donc, il vaut mieux se les raser si on ne veut pas avoir trop de mémoire.
Écoutez, il y a plein de monde qui a cette bonne idée, qui se rase la tête et tout, pour qu'on ne trouve pas peut-être qu'ils ont consommé de l'alcool alors qu'ils n'auraient pas dû. Mais à ce moment-là, nous, on n'est pas non plus dupes. Donc, on trouve des autres endroits où on va tout simplement arracher des poils et ça fait juste plus mal à la personne. Donc, c'est pas à conseiller de se raser. C'est très difficile de se raser partout.
Vous dites dans votre livre que toutes ces séries, les experts, il y en a plusieurs, les experts à Miami, les experts ici, les experts là, ça donne toujours l'impression que les Américains sont au top de l'ingénierie. Or, c'est pas du tout le cas. Vous dites que c'est l'Europe qui est en pointe. Les Américains ont beaucoup moins de moyens que les Européens.
Oui, exactement. Les Américains, ils ont vraiment des grands soucis. C'est plutôt triste, en fait, pour ce pays qui s'est dit quand même tellement à la pointe de la technologie. Mais au niveau médecine légale, ils ont tellement peu de finances pour les médecins légistes qu'ils ont même décidé qu'aujourd'hui, aux États-Unis, pour constater le décès ou la cause du décès, ce n'est plus nécessaire de faire une autopsie, un simple examen externe, ça suffit. Et évidemment, les médecins légistes ne sont pas d'accord, donc c'est pas eux qui ne font pas de l'avance, c'est plutôt la politique qui décide. Bah, si c'est un coroner qui décide, donc une personne qui n'est pas médecin, qui est peut-être il pourrait être médecin, mais souvent c'est des juristes, les personnes qui sont élues et votées par le peuple, c'est eux qui décident juste en regardant le corps, et c'est eux qui décident, c'est eux qui donnent en fait la cause du décès sans aucun examen, malheureusement très souvent.
Je me souviens que dans les films autrefois, le médecin légiste, c'était toujours un vieux type en blouse dans une salle d'autopsie sinistre. Généralement, il fumait, il n'était pas rasé, il avait un regard un peu fou. Qu'est-ce qui a donné envie de faire ce métier à une jeune femme comme vous ?
Bon, écoutez, la bonne chose, c'est que ces médecins légistes, ils existaient, hein, ils existent toujours, mais la plupart sont partis à la retraite. Ça, c'est pas si mal, disons comme ça. Mais le métier, moi, j'ai trouvé fantastique. C'était pas que je l'ai cherché activement, je suis un peu tombée dessus, ou tombée dedans plutôt, dans une salle d'autopsie, lors de mes études que je faisais à Innsbruck, donc dans les Alpes autrichiens, où on m'a mis dans un stage en médecine légale. Et quand j'étais dans la salle d'autopsie, je me suis dit, ben enfin, quand on est mort, on a un médecin qui nous regarde de A à Z, qui a le temps de faire les examens, qui s'en occupe vraiment et qui ne lâche pas juste à ce qu'il a trouvé la réponse à la question. Et souvent dans la clinique, malheureusement, on n'a plus ça.
Oui, et vous dites d'ailleurs dans votre livre que très souvent, on laisse quand la mort est naturelle, on ne cherche pas plus loin et on a peut-être tort. On devrait davantage s'intéresser à la cause réelle de la mort de qui que ce soit.
Oui, alors ça c'est aussi un souci parce que bon, nous en médecine légale, on fait les autopsies qui sont faites vraiment sur demande de la justice. Et la justice, à la base, il y a une chose qui l'intéresse. Est-ce qu'il y a une tierce personne qui est intervenue et qui est en lien avec le décès ? La maladie exacte d'une personne, pourquoi elle meurt, ça l'intéresse pas. C'est pour ça que dès qu'une personne meurt de manière naturelle, il aura pas d'autopsie médico-légale. Après, il existe des autopsies médicales qui peuvent être faites sur demande du médecin traitante de la personne, par exemple, ou sur demande de la famille via un médecin traitante. Mais là, aujourd'hui, on voit que les chiffres, ils sont très, très fortement en baisse partout au monde. Et en fait, on croit de tout savoir. On croit de savoir de quoi sont morts les patients à l'hôpital. Mais si on regarde vraiment, on fait l'autopsie après, je peux vous dire qu'environ la moitié des cas, la cause de décès qui est écrite sur la fiche qui constate le décès est celui qu'on trouve en salle d'autopsie, rien à voir.
On fait une pause et on se retrouve juste après. Vous avez encore des tas de choses à nous apprendre.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec la professeure Silke Graber, qui est une référence dans la médecine légale et qui publie « La mort n'est que le début de l'enquête du médecin légiste » aux éditions Favre. Faire parler un cadavre, c'est votre métier, mais aussi faire parler un corps vivant, quelqu'un qui a été victime d'une agression ou d'un accident, elle peut avoir recours à la médecine légale. Et vous dites que c'est souvent plus difficile d'ailleurs avec les vivants. Ce qu'ils vous disent est souvent en contradiction avec ce que dit leur corps. Les morts ne mentent pas, les vivants, si.
Oui, les vivants ont dit que de leur bouche, ils peuvent mentir, et même assez souvent, parce que souvent, si une personne arrive chez nous, c'est pas la personne qui a choisi de venir chez le médecin légiste. C'est d'une personne qui a soit subi quelque chose de terrible juste avant, peut-être une agression sexuelle ou une agression physique, même peut-être on a essayé de la tuer, donc elle est sous un certain choc, évidemment. Ou c'est des personnes qui sont suspectes d'avoir commis un crime. Et évidemment, ils ont l'intérêt de nous montrer qu'ils n'ont rien à voir avec ce crime. Et les victimes, certaines, ils veulent aussi nous montrer qu'ils sont vraiment victimes. Et ils sont pas en bon état pour faire leur examen au moment où ils arrivent. Donc du coup, c'est très difficile d'obtenir vraiment la vérité par leur bouche. Alors on préfère regarder leur corps parce que comme le corps des morts, il peut un peu moins bien mentir.
Alors ça dépend, vous racontez le cas de cette femme qui s'était très 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 bien dessiné un œil au beurre noir pour faire accuser son mari de violence conjugale.
Oui.
Elle a failli vous avoir.
Ça nous arrive.
Elle a failli vous
avoir.
Non,
pas du tout. C'était tellement bien fait. Et quand quelqu'un est trop maquillé, on le demande toujours à d'abord déjà se laver le visage et après de faire l'examen. Donc, c'est pas le but qu'on fait des examens comme si c'était toujours Halloween.
Les blessures auto-infligées, ça arrive souvent?
Oui, malheureusement, ça arrive souvent. Bon, pas non plus énormément de cas, mais quand même très très régulièrement. Et ça peut être difficile de dire maintenant est-ce que c'était vraiment auto-infligé ou pas. Mais heureusement, nous on a certains critères qui nous permettent de le trouver. Et ceux qui le font ont pas très bien étudié la littérature avant. Ils font les grandes erreurs classiques aussi. Et du coup, on peut les reconnaître quand même souvent facilement. De temps en temps, c'est un peu plus dur.
Les autopsies virtuelles, c'est le grand truc aujourd'hui. Les instituts de médecine légale suisse sont en pointe sur l'imagerie, tout ce qui permet d'examiner un corps sans l'ouvrir.
Oui, exactement. Mais le but n'est justement pas de ne pas ouvrir le corps, parce qu'on aime quand même bien ouvrir notre corps aussi comme médecin légiste.
Ah oui, j'imagine.
Le but est vraiment d'avoir une méthode complémentaire et d'avoir une méthode aussi qui nous permette de documenter. Parce que si vous imaginez le médecin légiste, il fait son autopsie. Bon, en France, ça peut être une personne. En Suisse, de toute façon, on va être deux pour faire l'autopsie. Mais on n'a pas un film qui nous montre tout ça. On n'a pas une documentation parfaite. On peut difficilement la faire en deux fois. Donc, nous, on essaie vraiment de documenter, déjà de nous préparer à l'autopsie. Donc, souvent, on sait déjà ce qu'on va chercher ou on va chercher plus en détail. Et après, on combine en fait les deux méthodes.
Alors, quand j'ai lu votre livre, j'ai pu découvrir que tout peut devenir mortel. Au fond, si l'on boit plus de 20 litres d'eau, on peut mourir. 2 litres de whisky, on meurt. 6 litres et demi de vin, on meurt. 210 grammes de sel, on meurt.
Ouais, on est mal fait.
Oui, c'est ça. On est vraiment mortel, quoi.
Oui, c'est ça, mais c'est peut-être aussi bien.
Non, mais est-ce que ça complique votre métier, ça, ou est-ce qu'au contraire, ça le facilite?
Non, ça complique quand même un peu, mais c'est ça aussi ce qui le rend intéressant, parce que tout est relatif. Et c'est ça que, malheureusement, certaines de nos mondains comprennent pas. Il y a des procureurs qui disent, on fait une analyse toxicologique, et si on trouve... la méthadone, par exemple, eh ben, la personne est morte d'une intoxication à la méthadone. Alors que là, on a juste envie de dire non, si on trouve de la méthadone, mais on connaît pas l'état de la personne, on connaît pas ses habitudes de consommation. À ce moment-là, ça nous dit rien, parce que peut-être c'est une personne qui a tellement besoin de la méthadone, elle est tellement habituée à ça qu'elle serait plutôt en risque si elle en a pas. Par contre, si c'est quelqu'un qui n'est pas habitué, qui est peut-être déjà en mauvaise santé, une toute petite dose pourrait déjà la tuer.
L'ADN, ça a été évidemment une véritable révolution dans votre métier. Mais comme il est très difficile, expliquez-vous, de ne pas en laisser, on en trouve d'un peu tout le monde. Et souvent, ça ne prouve rien.
Oui. Alors, l'ADN, c'est une preuve magnifique, c'est un outil magnifique, mais ça reste un outil et tout outil dépend un peu de la personne qu'il manipule. Donc, ça veut dire trouver l'ADN de quelqu'un qui était dans une pièce, de quelqu'un avec lequel on a eu contact, c'est tout à fait normal. Après, il faut le mettre bien dans le contexte d'un certain cas et de certaines questions. Et il faut interpréter les résultats de l'ADN. C'est de nouveau comme les analyses toxicologiques. Il faut pas juste avoir un résultat qui est positif ou un résultat qui est négatif, mais il faut creuser plus loin et le mettre en relation avec les informations que nous avons déjà.
En France, on se passionne beaucoup pour l'affaire Daval. Le procès a lieu en ce moment même. Il y a eu plein de rebondissements et notamment celui-ci, l'ADN de la mère du mari. Le mari, c'est celui qui est censé être l'assassin. L'ADN de la mère du mari a été retrouvé dans le coffre de la voiture qui a servi à transporter le corps de l'épouse. Mais cela ne veut rien dire au fond. Il suffit qu'en embrassant sa mère, un cheveu soit passé sur ses vêtements à lui, le mari, et se soit retrouvé ensuite dans le coffre. Ça ne prouve en rien la complicité de qui que ce soit.
Non, ça se prouve uniquement si on peut le mettre dans le contexte. Par exemple, s'il y a un témoin qui dit « mais j'ai vu qu'elle a touché » et on cherche à cet endroit précis ce que le témoin il indique, ça montre effectivement la version du témoin pourrait être juste. L'ADN toute seule, surtout si on connaît pas la quantité aussi, parce que c'est pas juste de nouveau la présence ou l'absence de l'ADN, c'est aussi la distribution de l'ADN, c'est aussi la quantité de l'ADN, la qualité de la trace qu'on a trouvée qui nous aide. Et du coup, il faudrait vraiment interpréter avec beaucoup précaution et le mettrait en relation avec des autres éléments de l'enquête.
Merci, professeur Silke Graber. Je rappelle que votre livre s'intitule « La mort n'est que le début, 3 points de l'enquête du médecin légiste ». C'est paru chez Favre. C'est très amusant et c'est très intéressant.
Merci beaucoup.
Et dans 2 minutes, on se retrouve avec Nordine Labiade. On va parler couscous.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Le couscous, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça devrait être officiel à la mi-décembre. Nordine Labiade, bonjour. Vous êtes le chef du restaurant à mi-chemin dans le 14e arrondissement. Depuis 18 ans, vous êtes arrivé à Paris de votre Tunisie natale. Vous avez longtemps refusé de mettre le couscous à la carte. Et là, vous publiez chez Solar Edition un beau livre intitulé « Couscous pour tous » qui contient 100 recettes de couscous avec des photos de Fabrique Vegas. Coup de chance, hein. Ça tombe juste quand le couscous va entrer enfin au patrimoine de l'humanité.
On était tous prêts au même temps, on va dire.
C'est ça. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est 100 recettes. 100 recettes, c'est énorme. Quand on rentre dans un restaurant de couscous, il y a quoi, 5 ou 6
oui.
Il y a 5 ou 6 couscous qu'on nous propose. Vous, vous en proposez 100.
Ah ben, tellement j'aime le couscous que je peux aller jusqu'à des 100 recettes. En fait.
Pourquoi est-ce que vous avez mis si longtemps avant de le mettre à la carte de votre restaurant?
Je voulais visiter tout le terroir français tellement il est énorme, faire mes épreuves de cuisine française et après je sentais un soif, je sentais une demande d'amour entre les dérives et moi j'étais un tous ces savoir-faire par mes anciens et par moi-même et je voulais livrer ce message à mes co-citoyens français.
L'origine du mot couscous, à mon avis, n'est pas pour rien dans l'amour que les Français lui portent. Hein. C'est un de nos plats préférés, tout le monde le sait, mais je suis sûr que c'est parce qu'il y a une sonorité dans le mot couscous.
Ben, le couscous, c'est quand les femmes roulent la graine, c'est le fait de rouler, de chanter avec les bracelets, ça donne les kiss-kiss, c'est le nom berbère. Donc le couscous, c'est les berbères avant tout, et l'Afrique des Nord et manger les mêmes plats. Et moi, c'est vrai, j'ai mis du temps à comprendre quoi, cet amour de français pour le couscous. C'est un plat, le simple plat de mon enfance. Et petit à petit, je commence à comprendre et ils ont tout à fait raison.
Vous rappelez dans votre livre d'ailleurs que Rabelais en parle déjà dans Gargantua. Hein, il lui fait manger un coscoton à la mauresque.
Un coscoton à la mauresque.
Ouais, oui. Ça existait déjà au Moyen-Âge, hein, vous le dites. Mais alors l'origine, Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie. Chaque pays revendique...
L'origine, il n'y avait pas de frontière avant. L'origine, il est nord-africain. Et maintenant, il est français. Moi, je fais mon couscous français avec les viandes des terroirs, avec les légumes qu'on trouve dans notre région. Il n'y a personne qui a le monopole du couscous. Le couscous, on les fait parce qu'on l'aime. Et on les fait parce qu'on veut les partager.
Alors, il y a quand même une histoire du couscous. Il va voyager depuis l'Espagne, où les Arabes sont restés jusqu'à la fin du XVe siècle. Il va voyager ensuite avec les Juifs, chassés d'Espagne par les rois catholiques. Il va arriver en Italie. En France, il va arriver avec la colonisation de l'Algérie en 1830. Puis la Première Guerre mondiale, quand 100 000 Kabyles algériens, vous le racontez dans votre livre, remplacent en France la main-d'œuvre partie au front. Certains vont rester avec ouvrir des restaurants, des épiceries déjà, et puis il y a 1962, les pieds noirs qui reviennent, le couscous garbi, et vous dites d'ailleurs que le couscous royal, dont on sait qu'il est à la carte dans tous les restaurants, hein, celui où il y a toutes les viandes, ben ça c'est une invention française.
C'est une invention française, c'est un couscous de gourmet, c'est de l'amour, les gens ils veulent tout au même temps. Mais je suis complètement d'accord, malgré que ça n'existe pas au pays du couscous, mais le couscous, il est sorti de sans frontières, il est partout.
Et qu'en fait, on peut préparer un couscous bourguignon avec du paleron de bœuf, un couscous franc-comtois avec de la saucisse de morteau, ou un couscous à la niçoise avec des anchois.
Oui, donc le couscous, il va vraiment nourrir et il va s'imprégner de son terroir. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher des produits ailleurs. Et le couscous, il rassemble. C'est comme s'habiller. Donc on mange comme on s'habille avec ce qu'il y a autour de soi.
En fonction des saisons.
Ouais, l'artichaut, le couscous au chou, maintenant là, en mi-saison, c'est très très bon.
Et alors le couscous à base de poisson, moi je croyais que c'était un sacrilège, une espèce d'hérésie, pas du tout. Hein. Le couscous au poulpe, le couscous au bar, à la lotte, à la sardine, au moule.
Au bulot,
ouais. Voilà, même au caviar.
Les couscous des poissons c'était moins cher, avant moins cher, parce qu'il n'y avait pas de système de froid. Et le poissonnier, il est obligé, il est content de vendre son poisson avant 11h. Donc tout le monde se ruait sur le couscous au poisson, parce que c'était moins cher et c'était nécessaire. Et toutes sur les côtes tunisiennes, on mangeait le couscous au poisson. À l'arrivée des Italiens, on commence à manger du couscous à la sèche et au poulpe. Et le couscous, c'est un plat économique, c'est rassurant. Quand il n'y a rien, il y a un couscous.
Mais parmi toutes ces, 100 recettes que vous détaillez dans ce livre et qui sont magnifiquement photographiées,
j'adore mon livre, il est vraiment,
il faut l'acheter, il est vraiment beau. Mais combien vous en avez inventé pour les besoins du livre ? Me dites pas que toutes ces recettes existaient avant vous.
Non, les recettes classiques, ça existe. Il y en a des recettes perdues, en fait. Il y a des recettes, c'était pas transporté au restaurant, et ça reste à niveau des familles. C'était des recettes modestes qui, moi, je les adore, c'est mes préférés. Les couscous aux boulettes aux herbes, c'est les boulettes de pauvres, c'est mes préférés. Les couscous aux bébés pastèques à la fin de l'été, très frais, c'est mes préférés. Le couscous à l'agneau et figues confites, c'est, on a raclé qu'est-ce qu'il y a au fond de l'armoire, on a fait un couscous, c'est mes préférés. Et après, il y a le couscous classique. Et après, on a fait beaucoup de couscous pour faire des feux d'artifice, de bulles, de champagne autour de couscous, que les gens vont faire leur propre couscous. Personne n'a le monopole du couscous et on peut faire un couscous.
J'ai découvert qu'on pouvait faire un couscous, des couscous sucrés pour le dessert ou pour
oui,
le goûter.
Comme 4 heures, le crumble, moi j'ai mangé.
Le crumble de couscous aux pommes caramélisées, il fallait y penser.
Oui, donc moi, mon 4 heures, c'était un couscous ou les cahiers aux pistaches ou à l'orange. Ou des pommes râpées, je mangeais pendant des années des couscous à 4 heures.
Une fois inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc mi-décembre, normalement, il va être décrit très précisément, le couscous, pour le protéger de toute distorsion. Alors, est-ce que vous pourrez encore inventer de nouvelles recettes ? Est-ce que ça ne risque pas de figer le couscous ?
Moi, j'ai tout le temps défendu le couscous pour qu'il soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais j'ai défendu les thèses qu'il ne faut pas qu'il soit figé. On dit viande, légumes et pois chiches et grains de semoule, mais il ne faut pas nommer ni le légume, ni la viande qu'on va mettre avec, ni il faut qu'il soit libre. Le couscous, c'est pour moi, c'est le mot de la liberté. Il faut laisser les gens faire leur propre couscous. Évidemment, il va être bon, mais il ne faut pas préciser les ingrédients. Le couscous, il est en train de faire un long chemin et on ne risque pas de le rattraper.
Merci Nordine Labiade. Je rappelle que vous êtes le chef du restaurant à mi-chemin dans le 14e arrondissement et que votre livre vient de paraître chez Solar sous le titre Couscous pour tous. Il contient 100 recettes photographiées par Fabrice Vegas.
Merci, à bientôt.
Europe 1.
C'est arrivé demain, se termine. On se retrouve samedi prochain. Après le flash, c'est l'heure du grand rendez-vous. Europe 1 CNews, Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Bonjour Mickaël, vous recevez Arnaud Montebourg.
Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, fondateur de l'entreprise de distribution de miel Bleu Blanc Ruche. Il revient avec un livre, L'Engagement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas dans la parole mielleuse.
Merci Mickaël, à tout de suite.